Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. Le niveau d'abordabilité du logement dans les villes est encore faible. L'Indonésie a proposé les articles sur le développement urbain basé sur un état archipélagique. La ministre des Finances, Sri Mulyani, a été affectée à lutter contre la pauvreté. La diplomatie indonésienne réussit à convaincre tous les pays membres de l'ASEAN pour unir à propos de LCS. Les membres du Parlement assistent à la réunion parlementaire asiatique au Pakistan. ITPC Mexique encourage l'augmentation des exportations de textiles. Cher ami, nous présentons maintenant le journal complet. Le directeur exécutif du programme des Nations Unies pour l'établissement humain, ou ONU Habitat, Juan Klo, mardi à Surabaya, a déclaré que le niveau de l'abordabilité du logement pour les communautés urbaines était important à considérer dans un effort de construire une ville propice pour le développement de la communauté. Les résultats de recherche des Nations Unies ont montré que le niveau de l'abordabilité du logement n'était pas directement proportionnel au produit intérieur brut ou PIB. Selon lui, le niveau de l'abordabilité du logement dépend des politiques émises par chaque pays. Afin d'avoir l'abordabilité du logement, il ne dépend pas du PIB. Il dépend des politiques de l'abordabilité et l'abordabilité n'est pas générée de la richesse. Ce sont les politiques publiques qui peuvent le faire parce que l'abordabilité devient un problème social. Il est lié à l'inégalité, au malheur, aux troubles sociaux et à de nombreuses questions. Juan Klo a déclaré que les pays du monde étaient encore loin de conditions optimales en matière de logement abordable, surtout dans les villes avec une population de plus de 100 000 habitants. Il a affirmé qu'il n'y avait de nombreux exemples de politiques sur le logement abordable, mais il faut une politique active dans le but d'accroître l'abordabilité des logements sociaux. Le ministre indonésien des Travaux publics et du Logement, M. Basuki Hadi Mulyono, dans une déclaration d'État qui a été soumise par la délégation indonésienne à PREPCOM 3 à Surabaya, a déclaré que l'Indonésie, en tant que représentant des pays archipélagiques, avait encouragé les efforts de développement urbain dans l'État archipélagique. Le ministre Basuki a également déclaré: cela pouvait se faire avec plusieurs approches, notamment en identifiant la connectivité entre le centre-ville et le village en fournissant un bon système de transport. Le système sera effectué en privilégiant l'approche du développement culturel urbain à l'approche du développement communautaire.
Kita tadi sudah saya sampaikan
Nous sommes en tant que l'État archipelagique avons livré des pensées. Comment pouvons-nous mettre en œuvre le développement urbain dans l'État archipelagique? Il y a entre autres la connectivité et la culture. En outre, le ministre Bazuki a affirmé qu'en plus de la connectivité et de la culture, la délégation indonésienne avait encouragé également les efforts pour rendre la ville comme un centre de développement régional. En outre, selon lui, le développement rural et urbain équitable et durable devrait également être fait par la construction de logements confortables pour les citadins et les villageois. Ministre Bazuki a ajouté que le nouvel agenda urbain devait aussi surmonter la diversité sociale et la situation géographique dans les efforts de développement mondial. Le président indonésien Joko Widodo a annoncé un remaniement ministériel à deux volumes au Palais Merdeka, Jakarta, mercredi 27 juillet 2016. Il y a 9 nouveaux ministres nommés par le président Joko Widodo, y compris la ministre Sri Mulyani. Elle est la ministre des Finances, remplacée Bambang Brojonegoro, qui est maintenant le ministre de Planification du Développement National. Le ministre de Secrétaire d'État, M. Pratikno, a déclaré mercredi au palais présidentiel que Sri Mulyani était nommée parce qu'elle avait des expériences dans le domaine de l'économie et des finances. En outre, elle a également un vaste réseau dans le niveau international, car actuellement, Sri Mulyani est la directrice générale de la Banque mondiale. On souhaite que Sri Mulyani puisse surmonter les problèmes économiques en Indonésie. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. La diplomatie du gouvernement indonésien a réussi à convaincre tous les pays membres de l'ASEAN à unir pour mettre fin à la 49e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN avec le communiqué conjoint qui contient la vision commune des pays de l'ASEAN sur la situation dans la mer de Chine du Sud. Cela a été dit par la ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, dans un communiqué de presse à Jakarta mardi, cité par Antara. Selon le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères, l'effort pour atteindre un accord sur le communiqué conjoint de l'ASEAN qui était prise par le processus dynamique. La ministre des Affaires étrangères, pendant 3 jours, a fait la diplomatie de marathon et rencontré des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'ASEAN séparément pour aider à atteindre le consensus. En outre, le gouvernement indonésien a également pris l'initiative de la mise en œuvre d'une retraite informelle avant le début officiel d'une série de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN dans le but de renforcer la confiance entre les membres de l'ASEAN. Lié à la situation de la sécurité en Asie du Sud-Est, le communiqué conjoint de l'ASEAN confirme l'engagement des pays de l'ASEAN pour maintenir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, y compris dans la mer de Chine méridionale. En outre, selon la ministre Retno Marsudi, à l'initiative de l'Indonésie, la 49e réunion des affaires étrangères a également produit une déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères de l'ASEAN concernant le maintien de la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. La délégation parlementaire indonésienne représentée par Hamdani de la faction de National Démocrate ou NASDEM et Chatur Sabto Edi de la faction PAN ont assisté à la réunion des parlements asiatiques chargés de l'économie et le développement durable du 25 au 29 juillet à Islamabad au Pakistan. Hamdani a expliqué sur la base de la décision de la deuxième séance plénière de l'Assemblée parlementaire asiatique à Téhéran, en Iran, le 9 novembre 2007, l'Assemblée parlementaire asiatique a mis en évidence 5 grandes questions qui sont divisées en comités permanents, entre autres les questions politiques, la paix et la sécurité, sociaux et culturels, l'économie et le développement durable, ainsi que la question énergétique. Selon Hamdani, la délégation indonésienne va constamment lutter contre ces domaines pour le renforcement de l'État et le bien-être du peuple. Actuellement, les membres de l'Assemblée parlementaire asiatique se composent de 42 parlementaires, 17 observateurs parlementaires et le Parlement régional. Hamdani a ajouté qu'en plus de l'Indonésie, les membres de l'Assemblée parlementaire asiatique sont renforcés par les pays de l'ASEAN, l'Afghanistan, le Bahreïn, le Pakistan, la Chine, la Corée, la Palestine, l'Arabie Saoudite, la Syrie, la Turquie et l'Iran. Les pays observateurs du Parlement sont l'Australie, les Fidji, le Japon, le Qatar, le Timor oriental, la Nouvelle-Zélande, l'Oman, la Nouvelle-Guinée et les autres. Le Centre de la promotion du commerce de l'Indonésie, ou ITPC de Mexico City, encourage l'augmentation des exportations des produits textiles d'Indonésie à travers la participation à la 65e exposition intermodale 2016 qui a eu lieu dans la ville de Guadalajara, au Mexique, du 19 au 22 juillet 2016. Cela a été déclaré par le chef de ITPC du Mexique, Benny Ramdani, dans un communiqué de presse le mardi cité par Antara. Selon Bani, le Mexique est un marché potentiel inexploité optimal. Depuis 2015, le Mexique a imposé un certain nombre de politiques afin de resserrer l'importation de produits textiles, comme indiqué par le nombre d'importations de produits textiles qui est illégal et sous valeur. Cela crée un défi pour l'Indonésie et l'occasion de montrer que l'Indonésie est en mesure de fournir des produits textiles de haute qualité. La participation indonésienne dans cette exposition est bien soutenue par l'ambassadeur d'Indonésie au Mexique, Yusra Khan. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Le Service mondial de la Radio République d'Indonésie organise le quiz international 2016 avec le prix principal passer des vacances en Indonésie. L'Indonésie, un pays enchanteur, le plus grand pays archipelagique dans le monde où vous pouvez trouver beaucoup de choses merveilleuses. Un beau pays avec la diversité naturelle et culturelle qui vit en harmonie avec les gens sympathiques et peut donner une impression inoubliable. Vous rêvez de visiter l'Indonésie? Réalisez vos rêves en participant au quiz international de la Voix d'Indonésie 2016. Peut-être vous êtes chanceux pour passer des vacances et profiter des charmes de l'Indonésie gratuitement. Répondre aux questions suivantes. 1. Quelle est la capitale de l'Indonésie? 2. Quel est votre programme préféré? 3. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de la Voix de l'Indonésie. Envoyez s'il vous plaît vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voequiz2016@gmail.com avant le 1er août 2016. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé La position de l'ASEAN sur les conflits de la mer de Chine méridionale. La Cour d'arbitrage internationale a rejeté la demande de la Chine sur la mer de Chine méridionale, surtout sur le territoire qui est marqué comme ses eaux de pêche traditionnelles. Les Philippines a ensuite acquis une légitimité à la décision de la Cour alors que les Chinois rebroussent. Les choses ne s'arrêtent pas là-bas. Le week-end dernier, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'ASEAN se sont réunis à Vientiane, Laos. Bien que la décision de la Cour d'arbitrage fût à l'ordre du jour, les ministres des Affaires étrangères ne sont pas parvenus à un accord concernant le règlement de la mer de Chine méridionale. Les Philippines voulaient ceci incorporer dans le projet de la déclaration conjointe finale de la réunion, mais le Cambodge, qui en fait n'a aucun lien avec le problème, a rejeté. La réunion a ensuite presque atteint un impasse. Les Philippines a finalement encore à contre-cœur renoncé à sa demande sur le passage de la déclaration commune le lundi. Ainsi, les résultats qui sont sortis de la 49e réunion ministérielle de l'ASEAN au Laos a seulement demandé à toutes les parties à faire preuve de retenue dans la mer de Chine méridionale. Sur les 10 pays membres de l'ASEAN, 4 pays, à savoir les Philippines, le Vietnam, la Malaisie et Brunei Darussalam, sont en conflit avec la Chine sur la question de la frontière maritime. Il est arrivé après Beijing à tenir des patrouilles de routine, même construit l'île artificielle dans la mer de Chine méridionale, qui est aussi revendiquée par les Philippines. Par rapport aux autres pays membres de l'ASEAN qui sont toujours en attente du dialogue et de faire appel à la Chine de libérer leurs revendications, les Philippines ont fait des progrès rapides et enregistré une plainte au sujet de la question à la Cour d'arbitrage international. Le résultat est un rejet d'une demande unilatérale par la Chine. Les Philippines ont obtenu ces exigences, mais tout simplement sur le papier. La position de l'ASEAN après la réunion à Vientiane montre la division interne dans cette organisation régionale et a fait des problèmes de certains membres de plus en plus non résolus. Le Cambodge, qui n'a pas de réclamation sur la mer de Chine méridionale, est considéré comme utile au bardage avec Pékin sur cette question. Des difficultés apparaissent également en raison de l'attitude de certains pays membres de l'ASEAN eux-mêmes qui sont ambigus. D'une part, ils veulent faire pression sur Pékin pour libérer sa réclamation sur leurs eaux de pêche traditionnelles qui sont marquées avec 9 lignes en pointillé. D'autre part, ces pays ne veulent pas perdre Pékin comme assez important partenaire commercial. Assurément, il est peu probable que cette question devienne prolongée. L'ASEAN devrait avoir une position plus claire pertinente à ces questions et ne permet pas à ses pays membres à lutter pour leur propre. La collectivité de l'ASEAN pour traiter diverses questions semble encore à prouver, surtout en face d'un géant comme la Chine. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers fidèles auditeurs auditrices. Pour l'arbre suivante, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire aujourd'hui avec le vol inaugural de Havilland Comet. Le de Havilland DH-106 Comet est le premier avion de ligne à réaction à entrer en production. Développé et construit par de Havilland dans son quartier général à Hartford, dans le Hertfordshire au Royaume-Uni, le prototype Comet 1 vole pour la première fois le 27 juillet 1949. Il a une apparence aérodynamiquement épurée avec 4 turboréacteurs de Havilland situés dans les ailes, en fuselage pressurisé et de grandes vitres carrées. À cette époque, il offre une cabine passager relativement silencieuse et confortable et montre des signes de succès commercial à son entrée en service en 1952. La transformation est sur la fin de la guerre de Corée, 27 juillet 1953. La guerre de la Corée, qui a duré du 25 juin 1950 jusqu'au 27 juillet 1953, est le conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Cette guerre est aussi appelée guerre mandatée entre les alliés de la Corée du Sud, à savoir les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et les alliés de la Corée du Nord, tels que la République populaire de Chine et l'Union soviétique. La guerre a pris fin le 27 juillet 1953, lorsque les États-Unis, la République populaire de Chine et la Corée du Nord ont signé un accord de cessez-le-feu. Pendant ce temps, le président de la Corée du Sud à cette époque a refusé de le signer, mais a promis de respecter l'accord de cessez-le-feu. Cette bataille a été arrêtée, mais les deux Corées sont techniquement toujours dans un état de guerre. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 27 juillet 1996, l'attaque du bureau central du Parti de la démocratie indonésienne. L'incident de l'attaque et de l'invasion est communément appelé « Gris samedi » parce que cet incident a eu lieu le samedi. C'est un incident d'acquisition forcée du bureau central du Parti démocratique de l'Indonésie sur la rue Diponegoro 58, Jakarta Central, qui est alors contrôlée par les partisans de Megawati Sukarnoputri. L'attaque est effectuée par les partisans de Suryadi, le président des versions du Congrès du Parti démocratique de l'Indonésie à Medan, qui est reconnu par le gouvernement à cette époque. Auparavant, il y a eu le dualisme du leadership au Parti démocratique indonésien. Le chaotique du leadership dans le corps du Parti démocratique indonésien est venu avant l'élection 1997. L'incident de prise de contrôle a élargi à des émeutes dans plusieurs régions à Jakarta, en particulier dans les quartiers sur la rue Diponegoro, Salemba, Kramat. Les effets de ces émeutes, Megawati Sukarnoputri a finalement fondé un parti rival, à savoir le Parti démocratique indonésien de lutte, comme forme de la lutte contre l'injustice à la démocratie indonésie à ce moment-là. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point sur l'environnement.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Sixième lointaine, pour l'article suivante, voici donc la mise au point sur l'environnement. Et pour le titre, le parc national de Waikambas est devenu le parc du patrimoine de l'ASEAN. Le parc national de Waikambas à la résidence de Lampung orientale est officiellement devenu le 36e parc du patrimoine de l'ASEAN. Cette décision a été prise lors de la 5e séance du comité du parc du patrimoine de l'ASEAN à Bandar Lampung, lundi le 25 juillet. Cette séance a été assistée par le directeur exécutif du Centre de l'ASEAN pour la biodiversité, I. Roberto V. Oliva, le directeur général de la conservation des ressources naturelles et des écosystèmes du ministère de l'Environnement et des Forêts, Tahrir Fatoni, et l'adjoint directeur de la division de l'environnement du secrétariat de l'ASEAN, Saros Krisai, et les représentants de 10 pays de l'ASEAN qui sont inclus dans le Centre pour la biodiversité et les éléments du gouvernement provincial de Lampung. Le secrétaire régional par intérim de la province Lampung, Sutono, à cette séance a déclaré « La fixation d'une zone au parc du patrimoine de l'ASEAN est un grand honneur ». Sutono a également affirmé qu'en plus du centre de conservation de l'éléphant, Dans le parc national de Waikambas, il y a aussi un sanctuaire de rhinocéros de Sumatra qui est le seul endroit de reproduction des rhinocéros de Sumatra en semi-naturel en Asie ou dans le monde. En mai dernier, le monde de la conservation internationale a reçu les bonnes nouvelles avec la naissance de bébés rhinocéros de Sumatra à Dekorn, à sanctuaire de rhinocéros de Sumatra. Selon Sutono, la naissance de bébés rhinocéros, qui est la deuxième fois dans le sanctuaire de rhinocéros de Sumatra, démontre la bonne gestion de l'élevage de rhinocéros dans le parc national. Jusqu'à présent, il y a 37 parcs du patrimoine de l'ASEAN. 4 d'entre eux sont en Indonésie, à savoir le parc national de Gunung Lesser à Aceh, le parc national de Kerinci Seblat à Sumatra, le parc national de Lorenz en Papouasie et le parc national de Waikambas. Pendant ce temps, le gouverneur de Lampung, M. Rido Ficardo, a déclaré « La fixation de Waikambas comme un parc du patrimoine de l'ASEAN est très exacte. De plus, le parc national de Waikambas ne parle pas seulement au sujet de la conservation des éléphants, mais aussi en rhinocéros de Sumatra, le tigre de Sumatra et les oiseaux rares, ainsi que d'être la maison à une variété de plantes à protéger. » Dans la science du comité du parc du patrimoine de l'ASEAN, l'Indonésie a également proposé le parc national des Mille Îles et le parc national de Wakatobi deviennent le parc du patrimoine de l'ASEAN. Le président de la science, Ratna Kusumasari, entend également des délégués de l'Indonésie à expliquer « La science inscrit seulement la nomination du parc national proposé par chaque État membre. » La fixation sera effectuée lors de la réunion ministérielle de l'ASEAN sur l'environnement en septembre. Le parc national, qui est désigné comme parc du patrimoine de l'ASEAN, recevra un financement du Centre de l'ASEAN pour la biodiversité, pour la conservation de la biodiversité. Le parc national Waikambas, par exemple, a reçu une aide de 3 millions d'euros pour les 3 prochaines années. Chers amis, c'était la mise au point sur l'environnement de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Le directeur exécutif du programme des Nations Unies pour l'établissement humain, ou ONU Habitat, Juan Klo, mardi à Surabaya, a déclaré que le niveau de l'abordabilité du logement pour les communautés urbaines était important à considérer dans un effort de construire une ville propice pour le développement de la communauté. Les résultats de recherche des Nations Unies ont montré que le niveau de l'abordabilité du logement n'était pas directement proportionnel au produit intérieur brut, au PIB. Selon lui, le niveau de l'abordabilité du logement dépend des politiques émises par chaque pays.
That in order to have affordability housing,
afin d'avoir l'abordabilité du logement, il ne dépend pas du PIB, il dépend des politiques de l'abordabilité, et l'abordabilité n'est pas générée de la richesse. Ce sont les politiques publiques qui peuvent le faire, parce que l'abordabilité devient un problème social. Il est lié à l'inégalité, au malheur, aux troubles sociaux et à de nombreuses questions. Juan Klo a déclaré que les pays du monde étaient encore loin de conditions optimales en matière de logement abordable, surtout dans les villes avec une population de plus de 100 000 habitants. Il a affirmé qu'il n'y avait de nombreux exemples de politiques sur le logement abordable, mais il faut une politique active dans le but d'accroître l'abordabilité des logements sociaux. Le ministre indonésien des Travaux publics et du logement, M. Basuki Hadi Mulyono, dans une déclaration d'État qui a été soumise par la délégation indonésienne à PREPCOM 3 à Surabaya, a déclaré que l'Indonésie, en tant que représentant des pays archipélagiques, avait encouragé les efforts de développement urbain dans l'État archipélagique. Le ministre Basuki a également déclaré cela pouvait se faire avec plusieurs approches, notamment en identifiant la connectivité entre le centre-ville et le village en fournissant un bon système de transport. Le système sera effectué en privilégiant l'approche du développement culturel urbain à l'approche du développement communautaire.
Kita tadi sudah saya sampaikan sebagai negara kepulauan.
Nous sommes en tant que l'État archipelagique avons livré des pensées. Comment pouvons-nous mettre en œuvre le développement urbain dans l'État archipelagique? Il y a entre autres la connectivité et la culture. En outre, le ministre Basuki a affirmé qu'en plus de la connectivité et de la culture, la délégation indonésienne avait encouragé également les efforts pour rendre la ville comme un centre de développement régional. En outre, selon lui, le développement rural et urbain équitable et durable devrait également être fait par la construction de logements confortables pour les citadins et les villageois. Ministre Basuki a ajouté que le nouvel agenda urbain devait aussi surmonter la diversité sociale et la situation géographique dans les efforts de développement mondial. Le président indonésien Joko Widodo a annoncé un remaniement ministériel à deux volumes au Palais Merdeka, Jakarta, mercredi 27 juillet 2016. Il y a 9 nouveaux ministres nommés par le président Joko Widodo, y compris la ministre Sri Mulyani. Elle est la ministre des Finances, remplacée Bambang Brojonegoro, qui est maintenant le ministre de Planification du Développement National. Le ministre de Secrétaire d'État, M. Pratikno, a déclaré mercredi au palais présidentiel que Sri Mulyani était nommée parce qu'elle avait des expériences dans le domaine de l'économie et des finances. En outre, elle a également un vaste réseau dans le niveau international, car actuellement, Sri Mulyani est la directrice générale de la Banque mondiale. On souhaite que Sri Mulyani puisse surmonter les problèmes économiques en Indonésie. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La diplomatie du gouvernement indonésien a réussi à convaincre tous les pays membres de l'ASEAN à unir pour mettre fin la 49e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN avec le communiqué conjoint qui contient la vision commune des pays de l'ASEAN sur la situation dans la mer de Chine du Sud. Cela a été dit par la ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, dans un communiqué de presse à Jakarta mardi, cité par Antara. Selon le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères, l'effort pour atteindre un accord sur le communiqué conjoint de l'ASEAN qui a été pris par le processus dynamique. La ministre des Affaires étrangères, pendant 3 jours, a fait la diplomatie de marathon et rencontré des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'ASEAN séparément pour aider à atteindre le consensus. En outre, le gouvernement indonésien a également pris l'initiative de la mise en œuvre d'une retraite informelle avant le début officiel d'une série de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN dans le but de renforcer la confiance entre les membres de l'ASEAN. Lié à la situation de la sécurité en Asie du Sud-Est, le communiqué conjoint de l'ASEAN confirme l'engagement des pays de l'ASEAN pour maintenir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, y compris dans la mer de Chine méridionale. En outre, selon la ministre Retno Marsudi, à l'initiative de l'Indonésie, la 49e réunion des affaires étrangères a également produit une déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN concernant le maintien de la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. La délégation parlementaire indonésienne représentée par Hamdani de la faction de National Démocrate ou NASDEM et Chatur Sabto Edi de la faction PAN ont assisté à la réunion des parlements asiatiques chargés de l'économie et le développement durable du 25 au 29 juillet à Islamabad au Pakistan. Hamdani a expliqué sur la base de la décision de la deuxième séance plénière de l'Assemblée parlementaire asiatique à Téhéran, en Iran, le novembre 2007, l'Assemblée parlementaire asiatique a mis en évidence 5 grandes questions qui sont divisées en comités permanents, entre autres les questions politiques, la paix et la sécurité, sociaux et culturels, l'économie et le développement durable, ainsi que la question énergétique. Selon Hamdani, la délégation indonésienne va constamment lutter contre ces domaines pour le renforcement de l'État et le bien-être du peuple. Actuellement, les membres de l'Assemblée parlementaire asiatique se composent de 42 parlementaires, 17 observateurs parlementaires et le Parlement régional. Hamdani a ajouté qu'en plus de l'Indonésie, les membres de l'Assemblée parlementaire asiatique sont renforcés par les pays de l'ASEAN, l'Afghanistan, le Bahreïn, le Pakistan, la Chine, la Corée, la Palestine, l'Arabie Saoudite, la Syrie, la Turquie et l'Iran. Les pays observateurs du Parlement sont l'Australie, les Fidji, le Japon, le Qatar, le Timor oriental, la Nouvelle-Zélande, l'Oman, la Nouvelle-Guinée et les autres. Le Centre de la promotion du commerce de l'Indonésie, ou ITPC de Mexico City, encourage l'augmentation des exportations des produits textiles d'Indonésie à travers la participation à la 65e exposition intermodale 2016 qui a eu lieu dans la ville de Guadalajara, au Mexique du 19 au 22 juillet 2016. Cela a été déclaré par le chef de ITPC du Mexique, Benny Ramdhani, dans un communiqué de presse le mardi cité par Antara. Selon Bani, le Mexique est un marché potentiel inexploité optimal. Depuis 2015, le Mexique a imposé un certain nombre de politiques afin de resserrer l'importation de produits textiles, comme indiqué par le nombre d'importations de produits textiles qui est illégal et sous valeur. Cela crée un défi pour l'Indonésie et l'occasion de montrer que l'Indonésie est en mesure de fournir des produits textiles de haute qualité. La participation indonésienne dans cette exposition est bien soutenue par l'ambassadeur d'Indonésie au Mexique, Yusra Khan. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Le Service mondial de la Radio République d'Indonésie organise le quiz international 2016 avec le prix principal passer des vacances en Indonésie. L'Indonésie, un pays enchanté, le plus grand pays archipelagique dans le monde où vous pouvez trouver beaucoup de choses merveilleuses. Un beau pays avec la diversité naturelle et culturelle qui vit en harmonie avec les gens sympathiques et peut donner une impression inoubliable. Vous rêvez de visiter l'Indonésie? Réalisez vos rêves en participant au quiz international de la Voix d'Indonésie 2016. Peut-être vous êtes chanceux pour passer des vacances et profiter des charmes de l'Indonésie gratuitement. Répondre aux questions suivantes. 1. Quelle est la capitale de l'Indonésie? 2. Quel est votre programme préféré? 3. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de la Voix de l'Indonésie. Envoyez s'il vous plaît vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voequiz2016@gmail.com avant le 1er août 2016. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chères auditrices et chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie. Pour la rubrique suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec Apprendre l'Indonésien.
santé, des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver à nouveau dans le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à voyager à Lombok, en province de Nusa Tenggara West. Alors, soyez toujours avec nous. Vous pouvez suivre les émissions de La Voix de Midi, le service international de RRI, soit sur Ondecourt, soit vous pouvez nous écouter sur www.voi.co.id. Chers auditeurs, la beauté naturelle de l'Indonésie est très diversifiée et dispersée dans diverses régions comme la beauté naturelle à l'île de Lombok, Nusa Tenggara West. Presque dans tous les coins de cette île, il y a des endroits intéressants à visiter. L'Indo est le tourisme naturel de la cascade. Le tourisme naturel de la cascade à Lombok est très exotique et enchanteur. L'une des cascades naturelles intéressantes est nommée la cascade de Benang Klambu. La cascade de Benang Klambu est l'un des sites touristiques excellents de l'île Lombok. Cette cascade a une beauté naturelle qui est très belle. L'atmosphère autour de la cascade est très fraîche. La cascade est située au pied du Mont Rinjani, précisément dans le hameau Pomoto, le village Aibri, la résidence de Lombok Central. Ce n'est pas très difficile de visiter la cascade Benang Klambu. Le kilométrage à cet endroit est environ 30 km de la ville de Mataram. Lors de l'arrivée dans l'aire de stationnement, les touristes doivent marcher 500 mètres vers ce site touristique. Les touristes vont passer le sentier et les forêts. La cascade est appelée cascade Benang Klambu ou cascade de fil à moustiquaire parce que l'eau ressemble à une moustiquaire. En raison de la chute de l'eau est légère et douce, les touristes ne se sentent pas la douleur quand ils sont directement sous cette cascade. Cette cascade a une hauteur d'environ 40 mètres. Il y a trois niveaux de falaises autour de la cascade. Les falaises sont envahies de verdure. Chers auditeurs artistes, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « La cascade Benang Klambu en province de Nusa Tenggara West ». Demain, nous nous retrouvons avec un sujet plus intéressant encore. Merci de votre fidélité. À bientôt.
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir, chers amis, bienvenue dans la rubrique Apprendre l'indonésien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet intitulé Memesan kamar hotel. Je répète, memesan kamar hotel en français. Réserver une chambre d'hôtel. Comme d'habitude, je vais vous présenter le vocabulaire et les expressions qui se rapportent au thème de conversation aujourd'hui. Selamat datang. Selamat datang. En français, bienvenue. Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? En français, puis-je vous aider? Terima kasih. Terima kasih. En français, merci. Réservation. Réservation. En français, réservation. Kamar besar. Kamar besar. En français, grande chambre. Mau tinggal berapa malam? Mau tinggal berapa malam? En français, vous voulez rester combien de nuit? Saya mau tinggal 3 malam. Saya mau tinggal 3 malam. En français, je veux rester 3 nuits. Berapa tarif per malam? Berapa tarif per malam? En français, combien le prix par nuit? 1 juta rupiah per malam. 1 juta rupiah per malam. En français, 1 million de rupiah par nuit. Saya mau check-in hari ini. Saya mau check-in hari ini. En français, je voudrais le check-in aujourd'hui. Besok. Besok. En français, demain. Hari ini. Hari ini. En français, aujourd'hui. Menunggu. Menunggu. En français, attendre. Kedatangan Anda. Kedatangan Anda. En français, votre arrivée. Chers amis, maintenant, je vais présenter la conversation entre le réceptionniste A et Monsieur Bodhi B. A. Selamat datang di Hotel Mulia. Ada yang bisa saya bantu? Selamat datang di Hotel Mulia. Ada yang bisa saya bantu? En français, bienvenue à l'Hotel Mulia. Comment puis-je vous aider? B. Selamat siang, Nona. Saya Bodhi. Saya mau reservasi 1 kamar besar. Selamat siang, Nona. Saya Bodhi. Saya mau reservasi 1 kamar besar. En français, bonjour, mademoiselle. Je suis Bodhi. J'aimerais réserver une grande chambre, s'il vous plaît. A. Selamat siang, Pak. Untuk berapa malam? Selamat siang, Pak. Untuk berapa malam? En français. Bonjour, monsieur. Vous voulez rester combien de nuit? B. Saya akan tinggal 3 malam. Berapa tarifnya per hari? Saya akan tinggal 3 malam. Berapa tarifnya per hari? En français, je resterai 3 nuits. Quel est le prix de la chambre? A. Kami mempunyai 2 kamar besar untuk 4 malam. Kami mempunyai 2 kamar besar untuk 4 malam. En français, nous avons 2 grandes chambres pour 4 nuits. 1 juta rupiah per malam untuk 1 orang. 1 juta rupiah per malam untuk 1 orang. En français, c'est 1 million rupiah par nuit pour une personne. Kapan Anda akan check-in? Kapan Anda akan check-in? En français, quand allez-vous le check-in? B. Saya mau check-in hari ini. Saya mau check-in hari ini. En français, je voudrais le check-in aujourd'hui. A. Baiklah, ini kunci Anda. Kamar nomor 5 di lantai pertama. Baiklah, ini kunci Anda. Kamar nomor 5 di lantai pertama. En français, eh bien, voici votre clé. C'est la chambre numéro 5 au premier étage. Chers amis, c'était notre programme Apprendre l'Indonésien de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical, un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse pop de l'Indonésie, Imania. Voici sa première chanson intitulée « Mon désir ». Bonne écoute.
Biar hujan badai menghalangi.
Serviteur, c'était la chanson d'Imania intitulée Mon désir. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.ca.id et nous vous invitons également à rejoindre La Voix de Tunisie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. Imania, qui a le nom complet Imania Nur Said, née à Jakarta le 15 octobre 1965, est une chanteuse indonésienne. La fille du grand musicien Said Klana est cantante du courant musical R&B. Avant d'être connue en tant que soliste, Imania a rejoint avec ses frères dans une bande de la famille, The Big Kids, et elle a chanté ensemble avec sa sœur Lydia Nur Said. Son jeune frère, Iwan Nur Said, a participé au monde de la musique de jazz et d'autres. Son jeune frère, Inan Nur Said, était célèbre comme le batteur qui a rejoint le groupe musical d'Emirat avec le courant musical jazz et le groupe musical God Bless qui a le courant de rock. Bon, serviteur, écoutons maintenant la chanson suivante de manière intitulée « Désordonné ». Bonne écoute. Chers auditrices et chers auditeurs, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.